Si nos écrans glitchent parfois, les paillettes peuvent-elles réparer?
Je sais pas, mais ça fait joli les paillettes. C'est bien, c'est bien. Faut mettre des paillettes de temps en temps.
Ah et oui. Des arcs-en-ciel.
Ouais.
Oh Bonjour, bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Avec des paillettes, bien sûr. MMMAN, Rodoudou, Medbel et Flo, bonjour l'équipe.
Bonjour Cécile.
Salut.
Bonjour tout le monde. Tout le monde.
Eh bien oui, cette fois, dans ce monde de paillettes, il y a aussi des glitchs. Des glitchs
Glitch.
Bah oui, glitch, Rodoudou, qu'est-ce que tu nous as fait?
Je vous ai préparé une petite chronique.
Ah, oui. En parlant de glitch, mais avant, un peu d'actu?
Des bougies même.
Allez.
Sortie de la version, pas du tout. Wikipédia, en fait, c'est 25 ans.
Il a eu un glitch
qui a bougé, je crois.
C'est toi qui glitch. Non.
Wikipédia fête ses 25 ans déjà, enfin même 25 ans et un mois. C'était il y a 25 ans, le 15 janvier 2001, Wikipédia voyait le jour. On remercie toutes les personnes qui lisent, donnent, contribuent à cette encyclopédie collaborative, l'un des plus grands projets collectifs de l'histoire. Découvrez du contenu spécialement préparé par la Fondation et d'autres pour l'occasion. Et toujours pour cette occasion, Numérama vous fait découvrir 25 faits que vous ignorez peut-être sur l'encyclopédie libre et gratuite en ligne. Oui. Par contre, était-ce une bonne idée de signer un contrat de licence avec les boîtes d'IA? Les prochains 25 ans le diront.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, sortie de la version 147 de Thunderbird. Le client de messagerie open source Thunderbird obtient donc une nouvelle mise à jour axée sur l'ergonomie et la stabilité. C'est bien. Moi, j'utilise, c'est bien.
Ok.
Voilà.
Eh bien, c'est tout pour l'actu.
Eh oui.
On écoute une petite chiptune.
Allez.
Et on se retrouve après pour Doglitch avec Rododo. Battle for Bacon! de Maze.
Ah, ça donne faim.
Mais attends, on l'a écouté il y a deux semaines et c'était pas la même musique.
C'est pas la même.
Deuxième partie.
C'est la deuxième partie de la musique de la démo qui a été produite pour la GERP 2026 et qui a été classée première. Ah. Passons au sujet du jour avec Roudoudou, tu parles
alors,
de glitch.
Alors, je vais intervenir pendant 10 secondes. Alors, le glitch, en point de vue sonore, c'est bien sûr un son bien sûr, qui est imprévisible, et notamment, on l'a entendu avec la TR-808, Roland.
Merci pour cette précision.
Alors, qu'est-ce que c'est les glitchs?
Ah oui, il nous l'a dit, Medbel.
Ah oui, alors, je ne vais pas parler des glitchs du MP3, là, des blips et des blops. Je vais parler des glitchs qui sont des bugs visuels, ou non, qui altèrent le fonctionnement d'un logiciel, en particulier les jeux. Par exemple, sur Amstrad, nous avons quelques cas de jeux vidéo dont la fin n'a jamais été testée, et même pour certains, jamais programmée. Supercopter va se terminer complètement figé. D'autres partent dans les limbes de la mémoire. Par exemple, le jeu de course Crazy Cars 2 affiche un message incompréhensible au bout de 14 trajets. Le programmeur n'avait pas prévu qu'on réussisse à terminer les 14 missions. Et donc ensuite, ça allait lire plus loin dans la mémoire n'importe quoi et bon, le jeu plantait. Autre glitch de Crazy Cars 2. La route se sépare en deux aux intersections. Mais la route du jeu n'étant pas en vrai 3D, si on continue tout droit, on ne passe pas dessus ou dessous la route qu'on croise. Celle-ci n'apparaît qu'au bout d'un moment quand on prend la sortie. Il n'est pas possible non plus de faire demi-tour dans le jeu car la voiture ne tourne pas assez vite et un décompte nous remet sur la route au bout de 10 secondes de hors-piste.
Ah.
Mais...
Ouais, c'est pas comme Outrun.
Mais alors, celui-là, j'avais halluciné un peu à l'époque de l'avoir trouvé. Si vous prenez la bifurcation, que vous attendez juste assez pour que la nouvelle route apparaisse et que vous filez dans l'herbe dans la direction opposée au virage, vous allez croiser la nouvelle route, réinitialiser le décompte et quasiment réaliser votre demi-tour. Seul problème, si la voiture est bien remise sur la route dans le temps escompté, elle va exploser en boucle à l'infini. On a fait glitcher le jeu. Alors, là, je vous parle de glitch qui font planter le jeu, la partie est perdue. Maintenant, je vais vous parler d'un autre glitch amusant, qui ressemble un peu à celui de Crazy Cars 2, parce que j'aimais bien foncer dans les murs et dans le décor.
Ah, on tant que c'est en jeu vidéo, ça me va.
Oui, bien sûr. Ah, bah oui. On jouait avec mon cousin à Super Sprint, un jeu de voiture dont on voit le circuit vu d'en haut. Et à plusieurs moments dans la course, des clés bonus apparaissent sur la piste grise. Donc quand on joue à deux, on se répartit les clés parce que c'est ce qui permet d'améliorer la voiture à la fin de chaque course. Et il n'y a besoin qu'un seul de nous deux gagne la course pour passer à la course suivante. Donc cette fois-là, c'est à mon tour de perdre la course et de récupérer des clés. Mais j'en profite pour m'amuser à foncer dans les murs le plus vite possible. Et il y a un mur en particulier dans un virage que j'essaye de taper à la perpendiculaire. Et qu'est-ce qui se passe? La voiture passe à travers le mur, se retrouve dans l'herbe où elle ne devrait pas être. Et là, je vois mon compteur de clés qui se met à grimper. Est-ce que c'était un hasard? Alors la course se termine, moi j'achète tous les bonus, et puis mon cousin, course suivante, c'est moi qui fais la course sérieusement, puis c'est lui qui rentre dans le mur comme ça, et on avait chopé tous les bonus comme ça. Mais ça c'était un glitch, voilà, c'était pas prévu. Dans le jeu Saboteur 2, un bug pas simple à reproduire m'a permis de faire un record de vitesse sur un des niveaux. La chose amusante est que ce bug fut reproduit à l'identique sur la bêta du remix Saboteur 2 par Cliff Townsend. Alors que je vous explique, on joue un ninja, ou plutôt une ninjette, et quand on saute d'une certaine hauteur et qu'on touche le sol, notre barre d'énergie descend en fonction de la hauteur de laquelle on a sauté. Et d'ailleurs, même si on saute de trop haut, on peut mourir. Sauf si un ennemi se trouve en bas, nous tape et réussit à nous atteindre. Alors on perd l'énergie due au coup, puis on touche le sol sans perdre l'énergie causée par la hauteur du saut. Redoutable. Voilà. Dans le jeu chaise HQ, si on tape l'adversaire avec une diagonale, ça peut lui enlever 2 points au lieu d'un. Alors, gardez dans un coin de votre tête cette histoire de diagonale. Là, je vous parlais de mur à la perpendiculaire très vite. Là, je vous parle de diagonale. Il y a vraiment des motifs qu'on retrouve dans énormément de jeux jusqu'à aujourd'hui. Dans le jeu Warrior, les combats sont difficiles, mais il y a un endroit où le monstre, quel qu'il soit, va se figer si on arrive à le bloquer sous un obstacle. Alors on peut le mitrailler tranquillement. Alors dans la série des bugs classiques, hein, y a le compteur qui reboucle, donc puisque les ordinateurs ont des intervalles de travail et une valeur maximale, et souvent quand on dépasse la valeur maximale, ça revient à zéro. Alors prenons par exemple le jeu Blue War, une simulation de sous-marin. Au fur et à mesure qu'on détruit des bâtiments ennemis, on va monter en grade jusqu'à devenir amiral. Mais si on détruit un bâtiment supplémentaire, eh ben on va redevenir matelot.
Ah mince.
Mais pas le curseur qui s'affiche sous les grades, parce que lui, il n'a pas la même borne. Donc lui, il va continuer plus loin dans le vide, indiquant une portion d'écran qui n'a pas de rapport avec un grade. Alors, plus vicieux dans les compteurs qui débordent, la version arcade de Dig Dug, lorsqu'on entame le niveau 256. Alors 256, ça ne tient pas sur 8 bits, ça repasse à 0. Et ben, au niveau 256, on va perdre obligatoirement, car les ennemis sont répartis sur la map en fonction du numéro de niveau. Or, la valeur étant sur 8 bits, on a un débordement, on obtient 0, et l'ennemi va apparaître sur le joueur. Même punition au niveau 22 de Donkey Kong, dont le timer dépend d'un calcul avec le numéro de niveau. Débordement, le temps attribué est trop court pour finir. La maladie s'étend à Donkey Kong Junior niveau F. Le jeu Fit It Félix Junior s'amusera de ses bugs de façon intentionnelle au niveau 39. Ralph tombe de l'immeuble et l'écran se remplit alors de 0, 1 et 2 en couleur, faisant un simulacre de plantage du jeu. Mais le jeu ne plante pas. Un de mes premiers jeux MS-DOS, Stunts, je vous en avais déjà parlé de celui-là, il ressemble à Super Sprint avec des circuits formés par assemblage de blocs simples et un éditeur de circuits. Moi je trouve ça idéal pour trouver des bugs.
Encore les trucs de travers.
Je fais pareil que dans Super Sprint, j'essaye de foncer dans les murs et je remarque rapidement que certaines voitures peuvent dépasser leur vitesse maximale si elles font un saut sur un pont, parce qu'en fait ça fait remonter les tours moteurs lorsque la dernière vitesse est enclenchée. Elles se retrouvent dans un super mode où l'herbe ne peut plus les ralentir. D'ailleurs, à propos d'herbe, hein, la plupart des blocs de route gèrent correctement l'emplacement de l'herbe, sauf un, une sorte de chicane légère, où l'herbe est considérée comme du bitume, et donc on peut rouler à fond la caisse. Et donc dans ce jeu, voilà, si on va très vite, il est aussi possible de traverser des murs, et accessoirement, quand il y a un bloc de chicane qui est là pour te ralentir, tu peux tenter de foncer dedans très très vite, et tu as une chance sur deux de passer à travers. Dans Doom, il y avait quelques bugs mignons. Le moteur était robuste hein, quand même. Hein. Mais on pouvait, par exemple, accélérer quand on longeait les murs.
Ah oui.
Donc là-dessus, je soupçonne un effet miroir et rebond qui s'additionnait. Il y avait aussi la possibilité d'aller plus vite en mélangeant le déplacement latéral et la course. Ce qui donnait plein de gens en multijoueur qui se promenaient tous en regardant de travers. Cette technique permettait parfois des raccourcis dans les niveaux, car comme on va plus vite de biais, il est possible de sauter des trous plus grands. Quand on regarde certains speedrunners sur Doom aujourd'hui, c'est assez hallucinant de voir que toutes ces astuces mises bout à bout permettent de terminer certains niveaux en à peine 30 secondes.
Ah oui, ça va super vite quoi.
Alors, si certains bugs sont dus à une mauvaise logique générale, par exemple courir de travers plus rapide, il y a toute une palanquée de bugs qui sont directement liés à l'usage grandissant de la 3D. Dans un jeu classique en deux dimensions, la gestion des collisions est assez simple, mais pas toujours parfaite. Hein. La liberté de déplacement dans un espace 3D vient compliquer les choses pour deux raisons. 1. On augmente les combinaisons possibles de déplacement, proche de l'infini en fait. Et 2. Selon la représentation mathématique des positions et objets, la moindre approximation ne va pas pardonner. Alors qu'avec des nombres entiers, on gère encore ça de façon naturelle avec l'arrondi, parce qu'un entier, c'est entier. Mais l'arrivée des jeux 3D va... les programmeurs vont arrêter de se servir des nombres entiers parce que c'est pas très beau. Les polygones semblent flotter à l'écran parce qu'on ne peut pas avoir comme coordonnées autre chose que des nombres entiers et ça va limiter la finesse des déplacements. Et puis bon, le 486 a bien popularisé le coprocesseur mathématique. C'est puissant. Le Pentium viendra mettre tout le monde d'accord à ce sujet. Donc que je vous explique le souci avec les nombres flottants. Comme leur nombre l'indique, Leur nom l'indique, pardon, les nombres flottants sont des approximations des nombres réels, avec une virgule flottante. Mais bon, cela tient surtout au format basé sur des puissances de plus en plus petites qu'on additionne pour trouver notre nombre. L'intérêt est grand, on peut, avec un nombre limité de bits, représenter des nombres très petits, aussi bien que des nombres très grands. Par contre, la précision générale est un peu moins bonne qu'avec des nombres entiers équivalents. Au lieu d'être précis jusqu'au milliardième d'une grandeur, on est précis jusqu'au 16 millionième de la grandeur. Mais là où ça se gâte, c'est quand on fait des calculs dont le résultat final ne va pas être, je sais pas moi, 5, mais 4,99999. Pire, si on veut tester la position d'un point rapport à un plan, on s'attend à soit avoir une valeur négative d'un côté, soit positive de l'autre. Et là, le pouillème de 0,00001 prend encore plus son sens. C'est-à-dire que on ne devrait pas être de l'autre côté, mais il va considérer qu'on y est. Deux murs semblent se rejoindre. Dans l'univers des flottes, ils se touchent presque, mais il est parfois possible de passer entre les deux, juste à l'intersection. Bien que ces problématiques soient courantes dans l'industrie, le monde du jeu vidéo est encore constitué d'amateurs éclairés, d'autodidactes, et toutes ces problématiques sont nouvelles. Hein. Je disais, il y a eu des années charnières du passage 2D à 3D. Les solutions sont simples, mais non adaptées aux outils qu'utilisent les graphistes 3D. Par exemple, le graphiste, il dessine ses murs d'un seul trait, il ne va pas reprendre chaque mur pour l'allonger un petit peu. Vous me direz, ça pourrait être un travail de programmeur aussi, d'avoir une copie de ces données graphiques débordant exprès légèrement pour combler les trous. Sauf que bon, on est dans le jeu vidéo, les ressources sont limitées, les délais de réalisation sont toujours tirés vers le bas.
Oh, ça oui.
Et ça donne des tonnes de jeux qui glitchent. Alors à propos de jeux qui glitchent, je crois qu'on a une palme d'or. Tomb Raider. Tomb Raider. Ce jeu, ah moi je l'adore.
Il est fabuleux.
Il est fabuleux. Mais alors les bugs, j'en ai pas parlé.
Porte bien son nom, hein, Tomb Raider.
J'en ai pas parlé la fois où j'avais déjà évoqué ce jeu parce que ce jeu reste fabuleux, marque un tournant dans l'industrie. Ceci étant dit, on était quand même bien indulgents avec les programmeurs parce que dès le début du jeu, ça commence. La caméra ne sait pas où se placer.
C'est pas fou.
Elle passe régulièrement à travers les murs parce qu'elle en tient pas compte ou mal. Je vous parlais voilà, du passage des programmeurs de jeu de nombre entier au nombre flottant. Là, on va avoir une pelletée de bugs dans Tomb Raider qui sont tous liés à une mauvaise gestion des collisions. On peut déclencher ces bugs quand on est proche d'un mur ou qu'il y a une petite pente ou proche d'un angle entre deux murs.
C'est compliqué, ils nous suivent avec difficulté des fois.
Ou la fameuse diagonale. Alors, pour rappel, dans ce jeu, les murs sont presque tous à angle droit. Ça, c'est dû au logiciel de conception des niveaux et à son quadrillage. C'est un peu bourrin, mais bon, les défauts vont venir de là pour beaucoup. On se positionne à 45 degrés rapport au mur. On s'approche un peu, mais pas trop, et on saute en l'air. Et comme quand elle saute, elle va un petit peu en avant. Si la position de départ est bien exécutée, Lara va rentrer à l'intérieur du mur et se téléporter plus haut.
Entre les deux faces, quoi.
Concernant les portes, même technique. Tu te mets à 45 degrés dans le coin, tu sautes, et au bout d'un moment, tu passes de l'autre côté sans avoir ouvert la porte. Donc on arrive sur un autre type de glitch. Le door clipping va déclencher d'autres bugs en cascade, puisque certains ennemis ne sont déclenchés que par l'ouverture d'une porte.
Ah bah oui.
Mais si tu passes de l'autre côté sans l'ouvrir, tu vas retrouver l'ennemi plus loin dans le jeu, qui est figé dans sa position d'attente, qui est normalement caché du joueur. Il attend d'être activé. Bah là, non, il n'est pas activé, donc il est comme ça, il ne bouge pas. Dans les cuves de San Francis, si on s'amuse à passer une grille, toujours avec cette technique du 45 degrés, on s'amuse à passer cette grille sous-marine au début. Et ben, derrière cette grille, il y a un couloir vers la droite qui normalement devrait être immergé, mais le couloir est au sec. Donc tu t'y engages, et quand tu te retournes, tu te retrouves face à un mur d'eau. Il est marrant ce glitch. Alors, il y avait d'autres bugs encore avec l'eau. Par exemple, dans le niveau des citernes, tu fais monter le niveau d'eau, il y a des crocodiles, tu les tues, tu fais descendre le niveau d'eau, mais le crocodile mort qui flottait à la surface, après il flotte en l'air, il n'est plus dans l'eau. Alors à propos de crocodiles, c'est les ennemis de façon générale, il fallait toujours tous les tuer dès que t'en voyais un. Parce que la routine qui calcule la distance entre un ennemi actif et Lara Croft, a un problème de débordement aussi. Elle se trompe dans les calculs. Et donc, si tu ne tues pas l'ennemi et que tu t'éloignes, tu vas beaucoup plus loin dans le niveau, la distance va finir par reboucler. Et sans que tu vois l'ennemi à l'écran, tu vas te retrouver en situation de te faire croquer ou tirer dessus. Et en fait, tu meurs sans comprendre pourquoi. Alors, autre gros bug dans Tomb Raider, là c'est des bugs visuels, hein, la priorité des objets. Quand on affiche des polygones, on commence toujours par afficher ceux du fond. Et on se rapproche de la caméra. Ainsi, un objet qui est derrière et qu'un objet devant, il va être caché par cet objet par recouvrement. Mais donc pour savoir comment afficher les polygones, on va les trier par position dans l'espace 3D. Sauf que dans le jeu Tomb Raider, ça utilise des polygones qui sont très grands. Et pour les objets bonus, par exemple, ça va être des polygones qui sont beaucoup plus petits. Donc il y a plein de cas où un petit objet qui devrait être derrière va se retrouver devant au niveau du tri des objets. Et donc toi, en tournant encore une fois, tu fais tourner la caméra de 45 degrés, tu mets en défaut le tri, et tu as un objet qui devrait être derrière un mur qui va apparaître. Du coup, tu sais qu'il y a un objet derrière ce mur et tu vas chercher à le trouver. Voilà, donc on aurait pu... Alors il y a ça aussi avec les blocs qui sont affichés dans les murs, qu'on peut retirer des murs. Là après, les solutions techniques, ça aurait été de faire du Z-mapping ou des techniques plus complexes, mais ça aurait demandé de refaire tout le moteur de jeu. Donc bon, pour ça, ils ne l'ont pas fait. Alors pour en finir sur ce jeu, le glitch ultime, alors celui-là c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. Le pause buffer. Alors celui-là, est très analytique. Quand on veut voir son inventaire ou accéder aux sauvegardes, on appuie sur échappe et le jeu se met en pause.
Jusque-là, ça paraît normal.
Voilà, le jeu se met en pause, le menu apparaît. Le bug de programmation ici est très intéressant. Si on sort de la pause et qu'on y revient très vite, la boucle de gestion du jeu a le temps de récupérer les actions, au bas, gauche, droite, de déclencher des mouvements, mais pas de gérer le reste de la boucle logique. Les speedrunners exploitent différents aspects de ce défaut de programmation. Que la pause ne soit pas exactement une vraie pause, mais quelque chose de plus hybride, qui ne reprend pas au même endroit. Donc ils exploitent ce glitch pour se téléporter à travers certains murs. C'est-à-dire que voilà, tu fais pause, j'avance, pause. Elle va commencer à avancer, mais ça ne va pas aller dans la routine qui gère les collisions. Et donc si tu fais ça, pause, en même temps que tu avances, tu passes à travers les murs. Et donc une fois que tu as passé à travers, alors quand c'est à travers une grille, bon ben c'est pratique, à travers un mur, ça va permettre de se retrouver encore une fois plus haut dans le niveau, s'il y a un emplacement libre au-dessus. Hein. Donc ça permet de finir pas mal de niveaux plus rapidement, puisque souvent dans Tomb Raider, ton dédale consiste à monter dans une pyramide, monter dans ton temple, etc. Voilà, donc il y a plein de niveaux à terminer comme ça. Puis il y en avait des choses à dire sur Tomb Raider.
Et moi j'aimerais bien y rejouer d'un coup, hein. Ça me donnait envie.
Mais un autre challenger 3D était-il exempt de bug? Quake. Alors bug ou défaut, hein, pourrait-on dire dans le cas de Quake? Dans les petites choses qui chagrinent, par exemple, les ennemis morts gênent le passage. Ou alors c'est les ennemis plutôt en train de mourir, ils gênent le passage jusqu'à ce qu'ils soient complètement morts. À ce moment-là, ils gênent plus. Donc soit ils gênent plus, soit ils gênent définitivement. Mais en fait, il y a une raison à ça. Ça n'avait pas été retenu parce que imagine que tu tues un ennemi sur un passage critique et obligatoire, il te bloquerait définitivement le niveau. Donc ce serait pas terrible. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait ce choix technique. Alors, j'ai pas beaucoup joué à Quake à l'époque, hein, le jeu me semblait plutôt propre. Aussi, je suis allé à la pêche aux informations pour trouver quelques bugs croustillants. Par exemple, il est possible de se suicider, t'as le droit, pendant les intermissions, ce qui fait péter les plombs de la logique globale. Plus gênant, un bug de texture lorsqu'on joue à des maps custom. Alors là, c'est vraiment un bug du moteur. C'est-à-dire que si tu as deux maps utilisant des textures différentes mais portant le même nom, le cache du moteur ne s'en rend pas compte. Et là, de graves effets secondaires peuvent apparaître, voire faire planter le jeu si la taille de la dernière texture est plus grande, car celle en cache plus petite aura alloué moins de mémoire. Et là, paf. Plus tard, je jouerai à Carmageddon, qui a aussi son lot de bugs. Alors, du classique, si on va très vite, on peut traverser un mur. Tiens, ça me rappelle quelque chose, voilà. Contrairement à Stunt, il est possible de sortir de l'espace de jeu grâce à des tremplins improvisés. Si tu tapes assez fort sur certains murs, tu vas rebondir, passer au-dessus du mur et tu te retrouves à chuter derrière le mur, là où il n'y a pas de route définie. Donc tu vas chuter dans le vide. Et parfois, si tu veux récupérer ta voiture, le moteur du jeu, il peut te remettre sur un toit duquel tu ne peux pas sortir.
Ah, ça, c'est gênant, un peu gênant, ouais.
Alors, quand Microsoft s'y met, on pourrait s'attendre au pire, mais non. C'est avec humour qu'ils vont gérer les limites de leur jeu de motocross, le jeu Motocross Madness. Motocross Madness. Premièrement, il faut déjà réussir à sortir du terrain. Alors, avec beaucoup d'élan, on arrive à grimper cette grande falaise quasi infranchissable. Première étape. Il est toujours possible de se promener au bord hein, pour admirer la vue. Mais si on fait mine de s'éloigner encore plus, on se prend un magistral coup de pied au derrière, faisant voler la moto et le pilote vers le centre du terrain, dans un bruit de projectile du plus bel effet. Comme quoi, quand on veut, on sait faire. Quoiqu'en fait, mon petit doigt me dit que certains ont réussi à déclencher ce mur invisible de façon infinie. Ils se sont mis, une fois de plus, à 45 degrés dans un coin, et ça faisait bing, 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 bing des rebonds. Et le pilote partait à l'infini dans les airs. Voilà, donc ce qui est amusant, hein, c'est aujourd'hui encore, le glitch des murs existe dans de nombreux jeux pour le bonheur des speedrunners. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres encore types de glitch. Là, j'ai une pépite hein, dans le jeu Cyberpunk. Il est possible d'interagir avec des gens dans la rue, de leur poser des questions. Et tu peux aussi les menacer. Et quand tu les menaces, ils ont peur. Et donc, il y a une personne en fauteuil roulant. Et si tu la menaces, bah, subitement, elle va retrouver l'usage de ses jambes.
Tiens donc.
Lever les mains en l'air, s'accroupir, finalement partir à toutes jambes. Et tout ceci en prime à travers le fauteuil roulant qui est toujours là. Alors, en termes de glitch, alors j'ai vu passer ça il y a 3 semaines. Voilà, là, c'est un glitch de classe mondiale. Un Brésilien a récemment battu le record de speedrun de Mario World en 41 secondes.
Wow.
C'est certifié. Et comment ça, 41 secondes, mais ça doit glitcher sévère, là. La manipulation semble légèrement anodine à première vue. Récupérer un bonus, déclencher 2 champignons côte à côte, bonus à la main, une petite pause, ça va ouvrir une pop-up. Alors, en fait, il va saturer la mémoire en déclenchant le plus d'événements possibles à gérer. Il lance sa tortue, il monte sur un Yoshi, il évite certains bonus pour remanger sa tortue un peu plus loin. Il va tirer 3 boules de feu, il fait une petite diversion, et là, il y a une pièce qui surgit, et au moment où Yoshi va déplier sa langue pour avaler la pièce, il saute de Yoshi pour se retrouver au même endroit que la pièce que Yoshi va choper avec sa langue. Et là, paf, écran de fin du jeu. Le jeu a littéralement crashé. Mais en crachant, il a sauté sur la routine de séquence de fin. Donc il a craché sans cracher. Et voilà. Et donc c'est pour ça que son speedrun de 41 secondes est officiel.
Ah ouais.
Voilà, donc pas mal. Hein. Allez, on va changer de type de glitch. Je vais vous parler de comportements involontaires, donc des vrais glitchs qui sont devenus des fonctionnalités. Alors dans le jeu Hitman 2, on peut jeter des objets au visage des gens pour les tuer. Mais lorsque le joueur lançait un attaché-caisse, celui-ci se mettait à tourner sur lui-même à fond la caisse, tout en avançant doucement et surtout, en fait, ça continuait à rester à 2 mètres du sol sans jamais tomber. Donc il y avait un côté hilarant de pouvoir courir à côté de cet objet qu'on venait de lancer. Ça a d'ailleurs fait naître quelques vidéos d'anthologie. Les développeurs ont rapidement corrigé le glitch, mais en fait, c'est devenu une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'après correction de bug, eh ben, on peut bien envoyer son attaché-caisse en rotation vers un ennemi. Mais là, ça va plus vite et c'est mieux fait. Quoi. Voilà. Plus ancien, les jeux Space Invader et Kassemushkin présentent le même défaut, ces deux jeux, hein, qui est de fait devenu du gameplay. L'accélération au fur et à mesure qu'on avance dans le niveau. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, avec des machines très peu puissantes et une façon de programmer rustre. les machines étaient à vitesse constante, donc il n'était pas utile de programmer les événements avec des interruptions ou des horloges. On faisait ce qu'on avait à faire, et s'il restait du temps, on était déjà content. Donc, ces deux jeux commencent avec un certain nombre d'ennemis à l'écran, et il faut tous les gérer. Comme la puissance de la machine est limitée, il n'est pas question de tous les gérer à la fois. Ces deux jeux optent donc pour la technique d'optimisation la plus simple, à savoir celle du jeton. Un seul ennemi possède le jeton, et à chaque tour de jeu, on simule le déplacement de l'ennemi qui a le jeton. Ensuite, il donne le jeton au suivant. Si on a 15 ennemis, ils vont bouger tous un par un, environ 3 fois par seconde. Mais si on a plus que 5 ennemis, ils vont bouger 10 fois par seconde. Avec un seul ennemi, il foncera à 50 images secondes. Donc plus on avance dans le jeu et moins on a d'ennemis, plus ils accélèrent. Voilà, le défaut de conception est devenu part entière du gameplay. Dans le jeu Doom, il était possible de passer, à certains endroits, de passer de l'autre côté du mur, en tirant et en faisant exploser une roquette à côté de soi. Le mouvement soudain pouvait le permettre. Dans Quake, certains endroits ne sont atteignables qu'en utilisant une technique similaire, en 3D cette fois, dite du rocket jumping. On tire une roquette sous ses pieds et hop, on saute très haut. La fonctionnalité est clairement intentionnelle. Hein. Déjà, de par la paternité de Doom, hein, et ensuite, de par les coins normalement inaccessibles, déclarés comme secrets quand tu les découvres de cette façon. Donc, c'est pas du hasard. Autre genre, un certain studio travaillait sur un jeu de voiture nommé Race and Chase, où un joueur devait échapper à la police. Et la version de travail n'était pas terrible, ça n'arrêtait pas de planter. Par contre, il y a le côté amusant, c'était un glitch où la voiture de police fonçait sur le véhicule du joueur comme un forcené. C'était marrant et ça obligeait vraiment à échapper à la police parce que, en fait, il te fonçait dedans, il détruisait ta voiture. Et ça a fini par transformer ce jeu en GTA, en fait, où on joue un criminel.
Comme quoi. Hein.
Ils ont dit, ah, finalement, c'est pas mal comme truc.
Voilà, donc ils en ont fait GTA. Voilà, donc cette chronique s'achève. Alors dites-vous bien que je ne vous ai parlé que des jeux dont j'ai connaissance et glitch. Hein. Il en existe des tonnes et des tonnes. Certaines chaînes de stream sont spécialisées dans ce genre de découvertes. On vous glisse quelques liens sur le pad, vous en trouverez aussi. Hein. Et je vous dis à bientôt.
Merci Rodoudou pour toutes ces découvertes, le glitch dans le jeu vidéo. Quelle fascination qu'on peut avoir sur ça. Eh bien, on écoute une petite musique et on se retrouve après pour l'agenda.
1-0-1-1-1-1-1-0-1-1-1-0-1-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-0-
1001, la Bénérie. Donc, c'est une musique sur la fin d'un épisode de Bill Nye de Science Guys on Computer. Ouais. C'était bien drôle.
C'est marrant.
Eh bien, on passe à l'agenda.
Oui, mais c'est aussi de la musique. On en revient à ça.
Oui. Parodie, oui.
Mais justement, ça, on reviendra sur ça.
Avec plaisir. Eh bien, nous avons une soirée libre bidouille à l'occasion de voir comment marche le logiciel libre, de demander ou de donner un coup de pouce et de découvrir ou de faire découvrir une astuce d'installer GNU Linux. Si vous souhaitez faire une installation, nous prévenir à l'avance est préférable. Donc, ce sera le 18 février 2026, donc à partir de 17h, à Espace Autrement, un rue des Résirés Bancel à Lamastre.
Attends, mais c'est pas tout. Il n'y a pas que Linux 07 à cette soirée, il y a aussi Résine.
C'est pas vrai.
Et ça, c'est tout nouveau.
Ah, c'est cool, oui. Ça.
Voilà. Régène ? Ah non, Régène. Ouais.
Oui, Régène, pardon, c'est le FAI local, donc en Isère, Drôme et Ardèche.
C'est ça.
Ok. Atelier cosplay plonge dans l'univers du cosplay et donne envie à tes personnages préférés. Cet atelier t'invite à découvrir les bases de la création de costumes. Échange d'astuces entre passionnés, apprentissage de techniques simples, couture, accessoires, maquillage, customisation et partage de savoir-faire pour imaginer ton propre projet. L'atelier est en accès libre pour ceux et celles qui souhaitent simplement venir observer, poser des questions ou découvrir l'univers du cosplay. Un moment convivial, créatif et inspirant, parfait pour débuter ou pour aller plus loin dans ta passion. Tout public dès 12 ans sur inscription pour participer le samedi 21 février de 14h à 16h30 à la médiathèque Frédéric
c'est
Mitterrand.
François, non, c'est François Mitterrand.
C'est la Tour Maubourg.
Ça aurait pu, mais...
Place la Tour Maubourg, Valence.
Et ouais, eh bien, c'est tout pour l'agenda.
Ça ira bien. Et du lien et des liens.
Eh ben, on va reparler d'IA. Ouais, quelques petits trucs. Donc, le site Just in the Browser vous aidera à désactiver toutes les fonctions basées sur de l'IA dans votre navigateur web, pour que ça aille plus vite déjà, que vous n'avez pas demandé. Ironiquement, il semble avoir été créé avec une IA. Mais bon. Ah oui, ça devient bizarre quand même.
Et
oui. AI Must Die est un magazine en ligne qui critique l'IA. Voilà. Et au lieu de se battre avec des dizaines de robots.txt pour éviter de laisser vos sites web se faire piller par les robots d'indexation des IA, on peut bloquer les GPT bots, les Cloud bots et autres directement à la porte de votre reverse proxy Nginx.
Intéressant.
Voilà, il y a des infos pour faire ça. Et puis enfin, DuckDuckGo a un sous-domaine NoAI qui permet de faire des recherches sans les outils IA du site.
À l'ancienne.
Et voilà, et en plus avec un filtre anti-IA dans la recherche. Donc c'est une curation humaine, donc il y a encore des trous dans la raquette, mais c'est quand même déjà ça. Voilà, donc par défaut. Alors en fait, on peut aussi demander au site principal de faire ça, mais du coup, c'est configurable. Mais en fait, si on passe en navigation privée, par exemple, il oublie, etc. Donc directement, noai.duckduckgo, et du coup, il le fait tout seul.
Impeccable. Voilà. Et on retrouve les liens sur le blog
_radio.fm.
Parfait. Astrologique, frottons cette boule.
Alors, rôliste, t'es pas potier, mais c'est ton tour.
Cosplay. Ah, je me suis coupé. Non, je plaisante. C'est du faux son. Regarde.
Ah, mais t'es vraiment une cosplay, toi. Libriste, qui publie sur Microsoft GitHub une petite mémoire et a oublié SourceForge.
Maker. Oh, ça sent bon ce PLA. T'as imprimé quoi aujourd'hui ?
Ah non, j'ai juste fait du popcorn. No Life. Non, j'ai raté No Life Z il y a 3 semaines.
Ah.
Oui, parce qu'ils font, ils font des soirées, ils rediffusent des émissions et il y a des nouvelles émissions aussi.
Z comme zombie, du coup.
Voilà, il y avait du coup la deuxième partie de la visite du musée MO5.
Ah, génial. Voilà.
DevOps. J'en peux plus de déplacer ces containers, j'ai mal au dos.
Mais tu es resté assis toute la journée ?
Justement.
Ah bon ?
Ah !
Ouais, parce que des fois, la chaise, c'est pas bon pour le dos.
Comme quoi, oui. Voilà. Et ben, je crois que ça va être le moment de se lever, hein, parce que l'émission va se terminer.
Ah ben, on va rentrer, alors. Ouais.
C'est la première fois qu'un astrologique a un jeu théâtral. Ah.
Exactement, ouais, c'est la première fois. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission, amis auditeurs et auditrices. Nous sommes enregistrés dans les studios de Radio Méga, mais vous pouvez nous retrouver ou nous écouter sur Westrack, Cactus, Radio Primitive et bien sûr Radio Méga, forcément.
Et oui.
Et sur notre blog _radio.fm. Et la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure pour un nouveau sujet.
Il va falloir trouver.
Peut-être un livre.
Ah.
Ouais. Ouais. Oui. Peut-être.
On va parler de Bob Marley. Ah maintenant.
Ah. Non mais ça va être difficile le livre à la radio. Ou alors faut le lire ou faut. Ah non, c'est pour en parler, c'est ça.
Et c'est pour en parler.
Ah d'accord.
Ah oui, voilà.
Okay.
Allez, à la semaine prochaine.
Salut. Ciao.
Bye bye.
Bye bye.